Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire, présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radion, il est 11h passé de quelques minutes. Bienvenue dans votre émission littéraire, en effet jusqu'à midi, c'est Wagon Livre. Nous allons aujourd'hui vous proposer une table ronde enregistrée en public lors de la 5e édition du salon Mine de Livres. C'était en Saône-et-Loire, à Blanzy précisément, et c'était le 12 octobre dernier. Ce salon du livre de Blanzy accueillait une cinquantaine d'auteurs, dont deux invités d'honneur, Estelle Tarot et Christophe Royer. Alors dans la table ronde que nous allons vous proposer aujourd'hui, vous y entendrez Estelle Tarot qui évoquera l'Alpha et l'Oméga, un thriller qu'elle a fait paraître aux éditions Tornada. Estelle Tarot qui habite dans le département du Doubs, très précisément dans le village de Nancré, qui est connu d'ailleurs dans le Doubs parce qu'il y a un musée à ciel ouvert, il s'agit du musée des maisons comtoises. Vous entendrez également un jeune lycéen qui fait paraître son premier roman intitulé Les Demi-Dieux, il s'appelle Tristan Frachet et nous ferons connaissance avec lui. Il a commencé à écrire son premier roman entre 12 et 14 ans, c'est un passionné de mythologie grecque et ses loisirs favoris sont la lecture en tout genre, l'écriture et la pratique de l'aviron. Autre auteur qui participait à cette table ronde du Salon du Livre de Blanzy, je veux parler de Serge Etiévent, jurassien, qui s'est fait d'ailleurs connaître avec un roman qui a connu un certain succès, intitulé « La préservée de Sainte-Ursule ». Et là, il sera question d'un autre roman qui a pour titre « La malnaissance », dont l'action se situe au printemps 1984, au cœur du Jura. Il y est question d'une jeune femme, Maude, qui accouche dans une maternité et, très rapidement, son nouveau-né va disparaître. Quelqu'un l'a enlevé. Une page d'histoire dans notre émission aujourd'hui avec Laurence Dollet, qui signe un roman historique intitulé « Jeanne, dame du Chon », dont l'action se situe au Moyen-Âge. Ce roman revient avec cette tisseuse d'histoire sur Jeanne de Châteauvillain, baronne du Chon. Huchon, c'est la perle du Morvan, c'est en Saône-et-Loire. Eh bien, Jeanne de Châteauvillain décide de finir ses jours dans ce lieu perdu et mystérieux et elle souhaite transmettre son histoire et un secret lié aux Templiers à son petit-fils et elle s'adresse à lui tout au long du roman. Nous ouvrons notre émission avec un des deux invités d'honneur du Salon du Livre de Blanzy le 12 octobre dernier. Je veux parler d'Estelle Tarot. Estelle Tarot pour l'Alpha et l'Oméga aux éditions Tornada. Et j'ai débuté l'échange en revenant sur un de ses propos, à savoir que le crime n'a pas tellement d'importance. Estelle Tarot.
Toujours pas. C'est vrai que c'est pour ça que j'écris des romans noirs. L'environnement du meurtrier et le meurtrier lui-même m'intéresse beaucoup plus que le crime en soi. Le crime est une des conséquences, mais ça pourrait être tout autre type de violence sans qu'il y ait un décès. C'est vraiment le cheminement et les frontières que se créent ou qu'on impose aussi parfois, entre guillemets, aux gens du bien et du mal qui m'intéressent. Et c'est ce passage d'un côté et d'un autre qui m'intéresse plus particulièrement.
Alors dans l'Alpha et l'Oméga, le mal est très présent, notamment à travers une tueuse en série qui s'appelle Nadège Solignac. Elle a grandi dans une étrange famille avec un frère, Julien Solignac, qui est aussi très présent dans ce roman. Nadège Solignac a grandi dans une famille. Alors, le père était chef d'entreprise, d'une entreprise qui produisait des articles de vaisselle.
Oui, c'est ça.
C'est ça, hein. il y a une mère, alors la maman était dépressive, alors en plus la mère avait des comportements
infanticides, ouais,
très étranges sur sa fille. Pour la punir, la mère bouchait le nez de sa fille et lui mettait la main sur la bouche comme pour provoquer une forme d'étouffement. Donc une mère au comportement plus que condamnable, une jeune sœur handicapée qui mourra à l'âge de 14 ans d'une crise cardiaque. Bon, ça c'est l'univers de l'héroïne, de la tueuse en série dans le roman d'Estelle Tarot. Cette tueuse en série, Nadège Solignac, il se passe qu'il y a tout un éventail de cadavres tout au long de sa vie. Alors on ne sait pas vraiment, parce que la justice y est intéressée, il y a la noyade d'un policier qui avait sans doute cherché à abuser d'elle, noyade accidentelle. La jeune sœur de Nadège Solignac, jeune sœur handicapée, bon, elle parle d'elle comme d'un monstre. La jeune sœur est morte d'un arrêt cardiaque. La mère est retrouvée suicidée, veine tailladée dans sa baignoire. Le père meurt dans un incendie. Une des collègues de travail de Nadège Solignac, qui est institutrice, meurt d'une chute dans les escaliers. Et puis il y a aussi cette pocharde, cette femme alcoolisée qui, depuis son adolescence, lui faisait peur, insultait les élèves qui passaient devant sa maison pour se rendre à l'arrêt de bus scolaire. Donc il y a toute une série d'accidents bizarres, de morts accidentelles ou provoquées, on ne sait pas. Et surtout, ce qui a intéressé la justice à ce moment-là, c'est que Nadège Solignac n'était jamais loin des lieux où se sont produits ces morts suspectes. J'ai beaucoup parlé, mais c'est important tout de même de parler de l'univers familial de Nadège, parce qu'elle va se retrouver mère. Elle porte un enfant qui est un enfant d'un viol. Et cet enfant, elle accouche seule, dans sa baignoire, me semble-t-il. Dans sa salle de bain. Elle accouche seule de cet enfant qui est un garçon qui va porter le prénom de Cédric. Et en fin de compte, elle qui n'a jamais provoqué que la mort et des accidents, et qui en jubile hein, d'ailleurs, parce que son plaisir, elle a plaisir à la souffrance de l'autre. Vous utilisez, Estelle, le terme d'orgasme assassin. Elle va tout de même épargner ce petit garçon, alors qu'au début, à sa naissance, elle a tenté plus ou moins de l'étouffer, de l'asphyxier. Oui, Estelle, alors, je vous laisse un peu la parole, pardon, parce que je ne veux pas trop plus.
Et, alors, il est vrai que pour le début de l'environnement de Nadège Solignac, donc là, vous avez évoqué un petit peu tout ce qui a jalonné son parcours. En fait, c'est l'objet d'un premier livre qui s'appelait « Mon ombre assassine », où là, on la voit se construire, où on part du début. En fait, ce policier n'a rien fait du tout. Ce policier était juste quelqu'un qui s'approchait un petit peu trop près d'elle et a été quelque part son premier meurtre loupé, en fait, raté. Et elle se retrouve dans la première partie de ce roman, elle se retrouve arrêtée, justement, et on ne sait pas si on qualifie ce crime de légitime défense ou alors s'il s'agit d'un meurtre. Et elle ne sait pas si elle va s'en sortir ou pas. Elle finit donc par s'en sortir. Et là commence l'alpha et l'oméga, quelques temps après, où elle va avoir cet enfant. Elle a été blanchie dans l'histoire de ce policier qu'elle a assassiné, hein, quand même. Hein. Lui n'avait rien fait, il n'a pas du tout essayé de la violer, etc. Mais elle s'en sort. Elle s'en sort et on a une tueuse en liberté qui est blanchie, mais qui est quand même sous surveillance, quelque part, au moins sociale, parce qu'on sait ça avait fait une histoire qui avait fait un grand bruit, etc. Mais dans ce premier livre, ce qui était intéressant, c'était pas l'enquête, comme dans tous mes livres, ce ne sont pas les enquêtes qui m'intéressent. C'était la construction du bien et du mal de cette petite fille dans ce contexte, avec cette mère qui a des tendances infanticides, qui, elle, va se suicider. Et puis, de ce père qui est juste à côté, mais qui est absent. Il y a des problèmes de filiation, etc., etc., qu'on apprend plus tard. Et elle va se retrouver mère en n'ayant pas eu de repères familiaux, je dirais. Alors, bienveillant, c'est un euphémisme, mais on va dire à peu près normaux. Et elle se retrouve avec cet enfant non désiré, se retrouve aussi complètement amoindrie puisqu'elle ne peut pas tuer aussi, entre guillemets, aussi facilement qu'avant. Et voilà. Et ils se retrouvent quelque part face à face. Et ce qui m'intéressait dans ce deuxième roman, c'est comment une femme qui s'est construite avec une logique du bien et du mal complètement délirante va pouvoir élever cet enfant et comment ce petit garçon lui-même va pouvoir, c'est le grand mot actuel, mais c'est le cas, se construire à l'ombre de cette femme.
Et échapper à la manipulation maternelle.
Oui, et puis c'est vrai qu'au début, elle ne sait pas si elle va le laisser vivre ou pas. En clair, au début, elle le voit comme un objet de réhabilitation sociale. Parce que cet enfant, elle s'en moque, mais il peut lui être utile dans cette réhabilitation qu'elle veut obtenir après ce fiasco meurtrier pour elle. Et le problème, c'est que quand la bascule se peut faire vers la mort ou vers l'amour, mais avec une personne comme ça, l'amour est jamais très loin de la mort quand même.
Alors, il est vrai que à la naissance de cet enfant, Nadège Solignac a la tentation de le faire mourir. Elle va lui donner sa chance, comme s'il s'agissait en fait de réveiller en lui une intuition de vie, voir s'il est capable de lutter pour montrer combien il est attaché à la vie, d'une part. D'autre part, cet enfant grandit. Il est attendrissant aussi, même si elle l'abandonne de nuit pour aller commettre quelques exactions, parce que pour elle, il s'agit tout de même, elle est dans une croisade qui consiste à punir et à détruire et à tuer les inutiles, les alcooliques, tout ce qui relève un peu des cassos, de ceux qui effectivement font peser un lourd tribut à la société. Elle est aussi extrêmement intelligente parce que, ayant été déjà inquiétée par des affaires de justice, un non-lieu est prononcé, elle sait qu'elle se doit d'être discrète si elle veut à nouveau semer la mort autour d'elle. Donc elle s'inscrit dans une association caritative qui organise des maraudes nocturnes pour accompagner les personnes dans la rue, alcoolisées, etc. Et elle va en tuer quelques-uns. Il y a une prostituée qu'elle tue, il y a le clochard alcoolique qu'elle immole. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'elle se laisse happer. Elle a de la tendresse. On a l'impression qu'elle a une tendresse pour cet enfant qui ne la laisse pas insensible. Elle le manipule et elle le conditionne pour qu'il ne s'intègre pas à la société. Parce que pour elle, le monde est pourri, la société est mauvaise, les gens vous font des sourires, mais ce sont des saloperies. C'est ça, en gros.
Oui, c'est ça. C'est totalement ça. Et ils s'enferment l'un avec l'autre. Ils s'enferment vraiment l'un avec l'autre. Et Nadège Solignac a une telle vision du monde que de toute façon, il peut difficilement en être autrement, parce que ce qui est positif est forcément hypocrite, et le reste est inutile, nuisible, et voilà. Donc, elle se situe dans cette veine-là, et l'attachement à son fils, donc il y a une manipulation, certes, mais à partir du moment où elle va aimer cet enfant, ça ne peut être qu'obsessionnel, enfermé et enfermant, comme elle l'a été elle. Donc, cet amour-là.
Elle le met en garde contre d'éventuels indices affectifs voilà. Venant d'autres personnes.
Mais c'est ça. Et puis, cet attachement ne peut être que fou et délirant, puisque cet enfant va être pour elle la seule personne qui va vraiment l'aimer sans contrepartie. C'est-à-dire que c'est la seule personne dont, quelque part, elle ne se méfie pas. Puisque le moment où il y a une bascule, elle revient à un moment où elle n'a pas pu être satisfaite du meurtre qu'elle vient de commettre. Elle revient, quelque part, elle ouvre la porte près du train, la scène du train, pour son fils, en espérant qu'il passe sous les rails. Cet enfant ne va pas y passer, va revenir, va faire ses premiers pas à ce moment-là, et se mettre dans les bras de sa mère avec une affection Et elle se rend compte que cet enfant qu'elle a voulu tuer deux minutes après vient lui donner son premier geste d'amour. Et là, dans la logique de cette femme-là, c'est un acte absolu d'amour qu'elle n'a jamais reçu d'ailleurs, hein, et va se mettre en place un schéma complètement fou d'amour obsessionnel sur cet enfant. Et donc tout le reste ne peut que lui nuire et leur nuire. Ça devient un couple complètement fusionnel.
Alors cet enfant va-t-il lui échapper ? Évidemment, ce petit garçon, il va à l'école, il apprend à lire, il est curieux, c'est un fouilleur. Hein, mmh. Alors il fouille dans la maison, il découvre sous le lit de sa mère une boîte qui contient tous les articles de presse qui ont été consacrés au forfait de Nadège Solignac. Évidemment, il remet tout en place, sa mère ne le sait pas. À l'école, il fait d'étranges dessins qui attirent l'attention de l'institutrice. Et puis surtout, il a un désir de voir comment fonctionnent les autres familles. Parce que, grandissant, il a conscience qu'il n'y a pas de père à la maison. Or, elle s'érige comme une louve et elle lui dit, dans une meute, il ne peut pas y avoir deux alphas. Je rappelle le titre du roman, l'alpha et l'oméga. Mmh.
C'est vraiment quelqu'un qui a une vision très, très prédatiriste, mais très, très animale hein, de la vie. Il n'y a pas de morale. Ce n'est pas une personne immorale, Nadège Solignac.
C'est une elle personne est très ambiguë.
Amorale. C'est une personne très... amorale.
C'est ça, Estelle. C'est que vous avez créé une figure maternelle qui... pour laquelle on bascule. On ne sait pas si elle est bonne ou si elle est mauvaise à l'égard de ce fils. En tout cas, Nadège Solignac doit se méfier de son frère, qui lui aussi a une vengeance à assouvir. Parce que le thème de la vengeance est important. Nadège Solignac a sans doute des désirs de vengeance à l'égard d'une enfance meurtrie, malheureuse, due à des parents dysfonctionnants. Et puis elle doit aussi faire attention à son frère Julien Solignac, qu'il la recherche parce qu'il n'a plus qu'elle comme famille.
Oui, c'est ça.
Et puis lui aussi, Julien Solignac, sa femme s'est suicidée, sa fille est morte accidentellement.
C'est pas accidentellement du tout.
Ah, oui, pas voilà. Mais, voilà. Oui, voilà. La petite fille est tombée de la fenêtre, mais bon. Et justement, il y a le poids de la malédiction. Et l'alpha et l'oméga, bon, bien sûr, ce sont la première et la dernière lettre de l'alphabet grec. Mais il y a tout un contexte un peu de malédiction grecque comme les Atrides,
oui,
bien
c'est
sûr.
Tout à fait ça, oui.
Bien sûr.
C'est tout à fait ça.
Ça peut plaire à notre jeune romancier qui aime beaucoup la mythologie.
Oui, celle-ci est un petit peu, peut-être pas. Voilà, mais oui, c'est quelque part une haine et des négligences, des dysfonctionnements, des crimes et quelque part du sadisme qui se perpétue de génération en génération. Elle a aussi une haine envers son père qui.
Avec les hommes en général.
Voilà, n'était probablement
les mâles,
pas son père.
Voilà. Les nuisibles, comme
mais voilà, mais quand on voit cette enfance, elle a eu ce père qui visiblement n'est peut-être pas son père, qui la rejette. Elle a eu beaucoup d'humiliation. Et en fait, son frère a été celui des trois qui s'en est le mieux sorti. Lui n'a pas eu de handicap, lui n'a pas été rejeté et n'a pas été livré dans les mains de leur mère, qui était quand même quelqu'un de relativement dangereux, même si elle a fini par suicider avant de tuer un de ses enfants, mais lui a pu s'en sortir. Et c'est vrai que ce frère, lui, ne s'est pas, je pense, pas rendu compte de ça, ou s'il s'en est rendu compte, il était quand même heureux de s'en échapper. Il est toujours très ambivalent envers sa sœur, c'est sa dernière famille. Il a quand même des doutes sur la mort de sa fille. Mais voilà, et quand c'est vrai, cet enfant naît, il naît Solignac. Donc déjà, rien que le sexe de son enfant quand il naît pose un problème à Nadège Solignac. Et quand le frère rentre en jeu et revient alors que cet enfant, elle l'aime, il forme ce duo fusionnel, lui vient très heureux de voir qu'il a un petit-neveu, un Solignac. Il voit comme un petit peu un enfant de substitution par rapport à sa fille qui est morte. Là, pour Nadège, qu'un Solignac, que son frère, qui a déjà tout eu, essaie de lui voler quelque part son fils, et cet enfant qui est déjà plus grand, comprend la dangerosité de sa mère, comprend l'ambiguïté qui est entre ses parents, va essayer de s'immiscer entre deux pour lui-même faire son chemin. Donc voilà, on a après ce duo qui se transforme en triangle. Bon.
très psychologique, très noir, très sombre, très angoissant. C'est l'alpha et l'oméga d'Estelle Tarot que je vous invite à applaudir. À l'instant, dans votre émission littéraire, Estelle Tarot, auteur de thriller aux éditions Tornada, le thriller dont il a été question a pour titre L'Alpha et l'Oméga. Il est disponible aux éditions Tornada. Je rappelle qu'il s'agit d'une table ronde enregistrée en public le 12 octobre dernier lors de la 5e édition du Salon du Livre de Blanzy en Saône-et-Loire. Nous sommes ensemble jusqu'à midi sur votre radio locale. Je vous propose un premier intermède musical et puis ensuite nous ferons connaissance avec Tristan Frachet, né en Bresse en 2009. Tristan Frachet qui a commencé d'écrire son premier roman Les Demi-Dieux entre 12 et 14 ans. Et puis vous entendrez également le jurassien Serge Etiévant pour un roman intitulé La Malnaissance. Nous revenons juste après la virgule musicale que nous vous proposons.
Seul sur le sable, les yeux dans l'eau, mon rêve était trop beau. L'été qui s'achève, tu partiras à 100 000 lieues de moi. Comment oublier ton sourire et tellement de souvenirs. Nos jeux dans les vagues près du quai, je n'ai vu le temps passer. L'amour sur la plage désertée, nos corps brûlés enlacés. Comment t'aimer si tu t'en vas dans ton pays loin là-bas. Things you do make me crazy about you. Pourquoi tu pars, reste ici. J'ai tant besoin d'une amie. All the things you do make me crazy about you. Pourquoi tu pars si loin de moi. Là où le vent te porte, loin de mon cœur. Seul sur le sable, les yeux dans l'eau, mon rêve était trop beau. L'été qui s'achève, tu partiras à 100 000 lieues de moi. Comment t'aimer si tu t'en vas dans ton pays loin là-bas. Dans ton pays loin là-bas. Dans ton pays loin de moi.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Merci de passer cette fin de matinée sur Radion dans Wagon Livre. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Nous vous proposons aujourd'hui une table ronde enregistrée en public lors de la 5e édition du Salon du Livre de Blanzy. Et comme je l'ai annoncé juste avant la virgule musicale, nous allons maintenant faire connaissance avec un jeune homme qui est né en Bresse en 2009. Il a fait paraître son premier roman, Les Demi-Dieux. Ce jeune homme s'appelle Tristan Frachet, c'est un passionné de mythologie grecque et ses loisirs favoris sont la lecture en tout genre, l'écriture et la pratique de l'aviron. Tristan Frachet, enregistré lors du Salon du Livre de Blanzy le 12 octobre dernier.
Je m'appelle Tristan Frachet, j'ai 16 ans, je suis en première cette année.
Quelle section ?
Première générale.
Mais scientifique, littéraire, économique
Alors, avec le nouveau bac, ça a changé, donc on choisit des spécialités, mais oui, effectivement, c'est plus l'équivalent d'une première scientifique, avec mathématiques, physique, chimie et sciences de l'ingénieur.
Alors, d'où venez-vous, Tristan ?
Alors, j'habite à Sainte-Croix, c'est un petit village à 10 km de Louhans.
Donc, vous êtes en Saône-et-Loire, on est d'accord ? Pas très loin de Chalon-sur-Saône, dans la Bresse
Oui, tout à fait, ouais. En Bresse, à une heure de Chalon-sur-Saône.
Et alors, depuis quel âge écrivez-vous et par quel type de texte avez-vous commencé à écrire ? Est-ce que dans votre famille, on écrit les grands-parents, les oncles, les tantes ? Est-ce qu'il y a beaucoup de livres à la maison ? Est-ce qu'on est stimulé intellectuellement dans la famille Frachet ?
Eh bien, ça fait... J'ai eu un goût pour la lecture qui a commencé assez tôt, avec notamment la série de romans Harry Potter. Qui m'a passionné littéralement. Ma tante s'est mise à écrire assez tôt, je crois depuis 2015.
Donc c'est la tante qui est aussi votre marraine,
oui,
qui est votre voisine ici au Salon du Livre de Blanzy.
Tout à fait. Donc elle m'a beaucoup soutenu pendant la réalisation de ce projet, qui a commencé à l'âge de 12 ans, pendant mon année de 6e. C'est parti d'un projet commun avec un ami qui écrivait quelques histoires lorsqu'il trouvait le temps. Moi, je prenais déjà beaucoup de plaisir à écrire des rédactions qu'on nous demandait en français. J'ai accepté la proposition. On était au total 3 sur le manuscrit, si je puis dire. Problème, c'est que les idées proposées ne faisaient que très rarement l'unanimité, donc le projet n'a pas pu décoller, il n'a pas abouti, donc on l'a rapidement abandonné. Et c'est pendant les vacances, les grandes vacances qui ont suivi cette année scolaire, que j'ai repris le manuscrit et que je l'ai réécrit à ma manière.
Alors, votre premier roman, Tristan Frachet, a pour titre Les Demi-Dieux, Révélation. Oui. Pouvez-vous nous présenter le synopsis de ce premier roman ?
Donc, c'est trois amis qui partent en voyage en Grèce. Donc, ça s'appelle Jason, Tom et Julia. Très tôt dans l'aventure, ils vont apprendre qu'ils sont des demi-dieux, issus de divinités de l'Olympe. On va leur confier la mission de retrouver un dieu, Hermès, qui a disparu. Pour cela, on leur indique... un chemin à suivre où ils pourront trouver de l'aide. Ils vont faire la rencontre de nombreux demi-dieux comme eux. Ils vont apprendre également qu'ils sont les héros d'une prophétie et ils vont partir en quête durant laquelle ils vont faire des rencontres et affronter différentes créatures issues de la mythologie, par exemple les Gorgones ou même Echidna, entre autres.
Bien. Vous aimez beaucoup la mythologie,
oui,
Tristan, j'imagine.
C'est donc, un sujet qui me passionne depuis très tôt, depuis la primaire.
Alors c'est aux éditions Nombre 7, édition Les Demi-Dieux, Révélation de Tristan Frachet, qu'on encourage par quelques applaudissements nourris. Alors la malnaissance, finalement c'est très intéressant à cette table ronde entre Estelle Tarot et sa mère Serial Killer et puis Serge Etiévant et son roman La malnaissance aux éditions Traits de Plume. Serge Etiévant, est-ce que je peux vous demander, vous venez du Jura, département 39 ?
Alors oui, effectivement, je suis jurassien d'origine de la région de Dole. et j'habite depuis plus de 20 ans entre Dole et Lons-le-Saunier à Chaumergy en Bresse jurassienne.
Voilà. Merci Serge. Alors, vous avez commis déjà d'autres textes.
Oui. Oui, donc je suis connu enfin par un roman qui s'appelle La Préservée de Sainte-Ursule, un roman en deux tomes qui évoque très brièvement, qui évoque des aventures d'un jeune maçon et d'une orpheline en milieu religieux dans le Jura de 1978 et qui conduit le lecteur dans les années 59-60 lors de la tragédie du barrage de Malpassé à Fréjus dans le Var. Voilà.
Alors la malnaissance, c'est le point de départ, c'est le vol d'un bébé, un nourrisson,
un nouveau-né,
dans une maternité. Alors ça commence à Champagnole.
Oui.
En 1984. Alors c'est important les années 80.
Oui. J'ai situé l'action là parce que c'est le début de la découverte de la génétique, où on commence à faire les premiers tests génétiques. Et donc, si je parle du synopsis, en quelque sorte, cette jeune femme accouche de son deuxième enfant, un nouveau-né, à la maternité de Champagnole, qui est enlevé le lendemain. Rapidement, on sait qui est la ravisseuse. Elle habite quelques dizaines de kilomètres plus loin dans la ville de Poligny. Elle est manipulatrice, machiavélique, et elle réussit, avec différents subterfuges, à faire passer cet enfant pour le sien et même à le déclarer à l'état civil.
Alors, elle est très forte quand même, parce qu'elle allait au travail avec des coussins qu'elle se mettait sur le ventre et qu'elle attachait dans son dos pour faire croire que son ventre prenait des formes et qu'elle attendait un bébé. Donc elle est effectivement malicieuse et rusée, comme toutes les femmes d'ailleurs.
Oui,
c'est l'apanage des femmes. La ruse est l'apanage des femmes.
Je vous laisse l'appréciation, mais... oui, donc effectivement, elle a trois coussins de tailles différentes au fil des mois. Et surtout, cette femme qui n'a jamais eu d'enfant, puisqu'elle a eu une fausse couche, mais elle n'a jamais eu d'enfant, réussit avec différents stratèges à avoir du lait, à allaiter l'enfant. Donc je dirais qu'il y a peu de femmes qui savent qu'effectivement, sans avoir eu d'enfant, on peut allaiter. Pour ça, il faut certaines plantes, certains traitements médicamenteux, une sorte de condition physique avec un tire-lait et s'entraîner pendant des semaines. Et on arrive, voilà. Et donc, elle arrive à allaiter cet enfant dans la mairie, là, à l'état civil, lorsqu'elle... Donc, l'officier public n'a pas d'hésitation.
Alors, il faut dire aussi que elle a de la chance que le procédé alerte enlèvement n'existe pas en 1984.
Non, voilà, il n'existe pas. Et en fait, elle est calculatrice, comme j'ai dit, elle est machiavélique, c'est-à-dire qu'elle enlève l'enfant quelques jours avant les fêtes de Pâques, là où la gendarmerie, la police est très mobilisée sur les allers-retours qu'il y a pendant le Pâques sur les routes, etc. Donc, et elle profite... À l'époque, il faut déclarer l'enfant dans les trois jours ouvrables. Et le week-end de Pâques, il y a trois jours non ouvrables. Donc on est à six jours. Donc elle arrive à avoir un délai suffisant pour faire croire qu'elle a accouché. Et six jours plus tard, elle est à l'état civil. Voilà, donc elle est assez machiavélique dans sa manipulation.
Alors, cet enfant qui a été enlevé, il a un signe distinctif.
Alors voilà, il a un signe distinctif, il a une sorte de tache de naissance sur le mollet qui ressemble à un petit hibou. Et ça a une importance parce que l'enquête donc, pour retrouver ce nouveau-né échoue, puisque cet enfant a une existence tout à fait légale. Et trois ans plus tard, la véritable maman voit un petit garçon sur une plage du lac de Chalin, dans le Jura, un petit garçon qui a la même tache qu'avait son nouveau-né. Elle pense donc raisonnablement que c'est le sien, que c'est son enfant qui a été enlevé trois ans plus tôt. Elle alerte les services de gendarmerie, d'enquête, qui effectivement prouvent que la femme qui accompagne cet enfant est effectivement la ravisseuse. Le juge d'instruction qui est sollicité pour cette affaire va être quelque part un peu gêné aux entournures, puisque cet enfant est déclaré à l'état civil. Donc d'une part à la mairie, mais également il y a une copie. Alors il faut savoir que les registres d'état civil, il y a une copie dans les services de justice. Et donc le procureur de l'époque a eu quelques légèretés en arrondissant, malgré que l'officier de l'état civil ait eu quelques doutes, à l'époque le substitut avait donné son aval pour déclarer effectivement l'enfant. Donc le juge d'instruction, 3 ans plus tard, a des hésitations, et comme on est au début des tests génétiques, pour être sûr que cette maman qui prétend la véritable maman va lui demander de faire un test génétique, elle et son compagnon. Et quand le test génétique revient, il s'avère que le compagnon est bien le papa, mais qu'elle n'est pas la maman. Et c'est donc là toute l'intrigue du scénario, puisque cette femme... la justice, donc la science, va lui dire qu'elle n'a pas de lien biologique avec l'enfant dont elle a accouché. Et donc elle va être confrontée à deux choses. D'une part, évidemment, essayer de se retrouver, réapproprier son enfant, puisque l'enfant est placé évidemment par la justice. Et la deuxième quête qui est là, qui est cette fois plus importante, c'est que s'est-il passé ? Pourquoi lui dit-on que dans sa chair... elle n'a pas de lien avec l'enfant dont elle a accouché. Donc elle va, elle, dans un premier temps, elle est perdue. Et comme elle est fille de vignerons, hein, j'ai situé ça moi dans la vigne du Jura, dans les vignobles jurassiens, elle va avoir une opportunité, c'est-à-dire que parmi les saisonniers venus faire les vendanges, il y a un homme qui connaît la génétique et qui va l'aider. Lui-même est surpris, il ne comprend pas. Comme nous tous, il ne comprend pas qu'il n'y a pas de lien biologique. Et donc, il va y avoir des recherches qui vont lui faire comprendre qu'en fait, elle a une histoire familiale, elle a une histoire dans sa chair bien avant qu'elle naisse. Et qui, voilà, après, je ne peux pas révéler plus loin parce que je vais trahir mon roman.
Il ne faut pas divulgâcher, comme disent les Québécois, le roman de Serge Etiévan, dont je rappelle le titre, La Malnaissance, aux éditions Traits de Plume. Serge Etiévan, on le trouve. Comment se le procure-t-on ?
Alors, les éditions Traits de Plume, c'est ma micro-entreprise d'édition, c'est moi-même. Donc, on le trouve avec mes propres moyens, c'est-à-dire que je distribue dans certaines librairies, certains services de presse du Jura, quelque peu en Saône-et-Loire, en Côte d'Or, dans le Doubs. Mais je ne peux pas aller plus loin parce que je revendique de ne pas contacter d'éditeur, alors ça peut choquer quelque part, et je le revendique tant et si bien que je suis également président de l'association comtoise des auteurs indépendants, une association qui regroupe 75 auteurs de Franche-Comté, mais également un peu de Bourgogne, et notre indépendant veut dire libre d'être édité ou de ne pas être dans une maison d'édition. Je fais partie de ces gens. C'est pas par prétention, hein. C'est simplement que le monde de l'édition est un monde où il y a de braves gens, mais pas que. Donc voilà.
Oui, alors ça dépend à quel éditeur on s'adresse. Hein.
Tout à fait. Il y a de très bons éditeurs.
Il y a
de très bons éditeurs et d'autres, je n'ai pas peur de le dire. Voilà. Ça fait partie de la chaîne.
À partir du moment où on choisit d'être auto-édité, on porte la responsabilité de diffuser soi-même son livre.
C'est ça.
Il peut très bien connaître un beau destin.
Oui,
mais
oui. Je prends l'exemple de mon...
C'est plus complexe.
De mon roman La Préservée de Sainte-Ursule, qui est actuellement à 1300 exemplaires, sans aucun éditeur. Voilà.
Enregistré lors de la table ronde du 5e Salon du Livre de Blanzy, c'était le 12 octobre dernier, vous avez pu entendre à l'instant Serge Etiévan pour son roman La Malnaissance, mais je rappelle aussi un roman qui lui a valu un beau succès d'estime et qui a pour titre La Préservée de Sainte-Ursule. Et puis vous avez également pu entendre ce jeune lycéen qui a fait paraître son premier roman et qui s'appelle Tristan Frachet. Le roman a pour titre Les Demi-Dieux. C'est Wagon Livre jusqu'à midi sur Radio, le dernier Wagon Livre de l'année 2025. Je vous souhaite d'ailleurs dès à présent un bon réveillon de la Saint-Sylvestre, et puis bien sûr tous mes vœux vous accompagnent pour l'année à venir. Et je voudrais d'ailleurs au passage partager avec vous ces deux vers du poète Paul Éluard qui écrivait « Le passé est un œuf cassé, l'avenir est un œuf couvé ». Wagon Livre sur Radion revient juste après la pause musicale que nous vous proposons pour la suite de la table ronde enregistrée en public lors du Salon du Livre de Blanzy. Page d'histoire, nous revenons au Moyen-Âge avec Jeanne de Châteauvillain, baronne Duchon, sous la plume de Laurence Dolay.
her eyes, I see my future. Well, I don't know how I should have told her. On my mind, we're closer than ever now. All I got is night that never ends. I'm lying to myself. I'm dreaming of, yeah, I'm dreaming of. Stepping right now, turning the page. I will shake you off, but I can't step dancing on my own. I lay in the backseat, but it's dead fresh. Tell me who to trust.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Nous sommes ensemble jusqu'à midi pour Wagon Livre sur Radion. Nous vous proposons aujourd'hui une table ronde enregistrée en public. C'était à Blanzy, en Saône-et-Loire, à l'occasion de la 5e édition de ce Salon du Livre qui a lieu tous les 2 ans. Je voudrais d'ailleurs saluer la présidente Martine ainsi que tous les bénévoles, les remercier à la fois de leur confiance et les saluer. En les remerciant également de leur accueil chaleureux et courtois. Dernière partie donc de cette table ronde du Salon du Livre de Blanzy, c'était le 12 octobre dernier, un roman historique sous la plume de Laurence Dollet, roman historique qui a pour titre Jeanne, Dame du Chon. J'ai demandé d'ailleurs ce qui avait inspiré cette tisseuse d'histoire, Laurence Dollet, qui est rédactrice professionnelle, coach en écriture, plume de l'ombre et animatrice de l'atelier d'écriture Armorescence. Eh bien, Laurence Dollet aime partager son amour pour les mots, pour la nature, pour la perle du Morvan, avec toute la curiosité passionnée qui la caractérise. Laurence Dollet.
J'ai écrit ce livre puisqu'en fait, j'ai habité à Huchon. Et j'ai habité un...
Alors Laurence, je suis navrée. Huchon, il faut que... tout le monde alors, ne sait pas où se trouve Huchon.
Merci de le préciser, mais je ne comprends pas d'ailleurs.
Parce que dans Lyon, tout le monde ne connaît pas. Par exemple, dans Lyon, en Corse ou en Bretagne, sûr, Huchon, c'est la perle du Morvan.
Oui, c'est la perle...
C'est la Saône-et-Loire.
Alors, c'est encore la Saône-et-Loire. C'est la pointe sud du massif du Morvan. Et c'est un lieu effectivement assez emblématique puisque c'est le lieu où à la fois vous êtes en face de Bibracte, donc ancienne cité gauloise, alors mondialement connue. Vous avez un site de chaos granitique, c'est le 3e site de France.
Et avec tout cet aspect mystérieux des pierres, la griffe
voilà,
du diable, etc.
Exactement, avec la griffe du diable, avec la pierre qui croule.
Avec des illustrations, des photographies
dans
votre roman.
Oui, ce sont des photographies personnelles. Et c'est vrai que c'est un endroit vraiment qui est mystérieux de par son ambiance, de par son paysage et qui a une longue histoire. puisqu'on sait que même du temps des Celtes, les Celtes sont passés là, les Romains sont passés là, et puis il y a donc toute une histoire médiévale et qui a continué après. Il y a beaucoup de choses à raconter sur cette perle du Morvan.
Vous êtes la présidente de l'association des Amis Duchon. Vous rendez d'ailleurs aussi hommage à la société
je ne suis plus présidente des Amis Duchon, mais j'ai travaillé pendant plusieurs années, ainsi que toute l'équipe, avec le Centre de Castellologie de Bourgogne, qui est d'ailleurs présent aujourd'hui. Et il y a un patrimoine, ce sont des ruines, il ne reste pas grand-chose de ce château, mais qui au départ est un château de l'an 1000, ce qui n'est pas banal, on en voit encore une salle. Et pour le reste, eh bien, le but, c'était de préserver ces ruines.
Alors, parlons de Jeanne.
Oui.
L'héroïne, vous vous glissez dans la peau de Jeanne,
oui,
et vous faites revivre, en respectant les lignes historiques de son existence et vraisemblablement aussi en brodant un portrait des comportements de Jeanne. Donc, elle est née en 1305. Alors, elle est née en Haute-Marne, au château de Château-Vilain.
Oui.
Elle est rapidement orpheline de mère. Son père, rapidement veuf, va se remarier. Et puis, elle a une lignée d'ancêtres prestigieux, hein, puisque beaucoup d'entre eux se sont rendus à l'appel de Saint-Louis aux croisades. Mmh. Alors, on n'a pas le temps de tout suivre, j'allais dire, le lignage, ce qu'on appelait le lignage de Jeanne. Néanmoins, ce que j'ai trouvé très intéressant et émouvant, sous la plume d'une romancière qui ne se veut pas historienne, hein,
vous prenez des précautions
en disant, effectivement, je prends la liberté de donner vie à un personnage historique, mais j'y colle une part de recréation de ce qu'a pu être son existence. Alors, elle est plutôt bien née, elle a une belle éducation. Vous pensez qu'elle allait à la chasse avec les hommes ?
Ah ben, je pense que les femmes de cette époque faisaient beaucoup plus de choses que ce qu'on imagine et qu'elles avaient une certaine éducation, tout simplement aussi parce que parfois il fallait qu'elles remplacent leurs époux qui étaient tout le temps partis, soit guerroyer, les croisades, etc. Et de ce fait, donc, était tout à fait à même de chasser et puis de tenir un château, de tenir des jours de justice dont on a la trace. Hein, là, je n'invente absolument rien. Donc, un rôle extrêmement important. Et moi, ce que j'avais à cœur, c'était... Huchon, on le connaît sous le côté patrimoine naturel. Mais j'avais à cœur aussi de montrer qu'il y a eu de grands seigneurs à Huchon et que c'est une facette dont on parle peu, mais qui quand même est importante.
Alors, la reine de France,
oui,
Marguerite de Bourgogne...
En fait, on est en plein roi maudit et c'est un petit peu j'évoque. C'est que au moment des rois maudits, donc on sait que Philippe le Bel donc a fait un procès aux Templiers, qu'il y a une malédiction,
Jacques de Molay,
qu'il y avait donc quatre fils et puis ils sont morts les uns après les autres. Et donc le premier c'était le Hutin et en fait il a eu une fille. Et cette fille s'appelle Jeanne. Alors, c'est vrai que ça fait beaucoup de Jeanne, mais
on
n'y peut rien.
Il y en a beaucoup dans le roman.
Voilà. Mais Jeanne de Navarre, en fait, aurait dû, s'il n'y avait pas eu un soupçon d'infidélité, et soupçon, on peut vraiment y penser, elle aurait dû être reine de France. Mais comme il y avait ce soupçon quand même d'infidélité de la reine...
L'honneur n'était plus sauf.
Voilà, et de ce fait, cette petite Jeanne a été assez vite écartée de la cour, alors qu'elle est d'une filiation prestigieuse, hein, puisque sa grand-mère, c'est
fille
de
Saint-Louis. C'est bien Marguerite de Bourgogne.
Non,
La Jeanne de Navarre, sa mère...
Sa mère...
La mère de Jeanne de Navarre est Marguerite de Bourgogne,
voilà.
C'est cela.
Voilà, c'est ça. Et cette petite Jeanne, donc, il est écrit que... Elle avait comme gouverneuresse Jeanne de Château-Vilain. donc je n'invente rien. Et elles ont gardé contact, elles se sont vues souvent. Et en fait, Jeanne, cette Jeanne de Navarre, pour lui donner un lot de consolation, elle était reine donc de Navarre, on connaît dans le sud-ouest de la France. Voilà. Mais elle venait très souvent au duché de Bourgogne. Sa grand-mère était Agnès de France, petite fille de Saint-Louis.
Alors, ce qui est incroyable tout de même, c'est aussi les distances qui sont parcourues. Ça. À un moment, il est question d'Avallon.
Moi
qui habite Avallon, dans l'Yonne, Avallon apparaît dans votre roman. Alors, il y a tous les aspects culturels, notamment la nourriture. Les légumes, racines et bulbes sont, de par leur croissance, souterraines, réservées aux paysans.
Oui.
Seuls les légumes sur tige ou sortant de terre, ainsi que les fruits, peuvent être consommés par nous, les nobles. Et je dois avouer, parce que c'est Jeanne qui parle, et je dois avouer que, lasse de toutes ces viandes fortes, je préfère me nourrir de verdure aux grandes dames de ma cuisinière qui me reproche ce qu'elle qualifie de régime de monial. Alors, votre belle Jeanne Duchon, qui est aussi Jeanne de Luzy.
Ah oui, évidemment, tous ces personnages, tous ces seigneurs ont des seigneuries énormes.
Ils accumulent les seigneuries.
Ils accumulent les seigneuries. Et en plus, elle s'est mariée avec un seigneur de Beaujeu.
Qui est son nom.
En plus, par mariage, dans ce temps-là, tout est lié. Et Beaujeu, c'est le Beaujolais. Et c'était un prince de la Dombe. Donc, c'est pour dire l'étendue des fiefs de ces grands seigneurs.
Alors, elle a une belle éducation. On lui apprend à chanter, on lui apprend à broder, on l'apprend à danser. Elle reçoit l'éducation très médiévale des dames de l'aristocratie, en fin de compte.
Tout à fait, oui, puisque dès sa naissance, en fait, elle est en contact à la fois avec le duc de Bourgogne et à la fois avec le roi de France. Puisque selon les fiefs, et même le comté de Nevers, parce que c'est vrai que ça aussi, c'est une petite caractéristique de Duchon, c'est qu'Huchon dépendait du comté de Nevers dans le duché de Bourgogne, ce qui a donné lieu à de nombreux procès entre le duc de Bourgogne et le comte de Nevers. Et on a les traces dans les archives des procès qui ont eu lieu, le duc de Bourgogne ne comprenant pas qu'Huchon ne soit pas assujetti à son autorité.
Alors notre Jeanne, dame Duchon, lit les auteurs, elle lit les classiques grecs et latins, mais aussi les auteurs de plus récents, des chansons
de gestes
et surtout de la courtoisie, la fine amour, l'élégance, la courtoisie des chevaliers, troubadours et jongleurs. Et puis, voici ce que Jeanne Duchon écrit sous la plume de Laurence Dollet. Je sais qu'aux yeux de certains hommes, lire est une activité de moines et de moniales. Mais, cher enfant, parce qu'elle s'adresse à son petit-fils, c'est un témoignage, sachant sa mort proche. Mais, cher enfant, les livres t'apporteront le savoir, la sagesse, la distraction, le rêve et tant de choses encore. Prends-en bien soin en ma mémoire. Donc là aussi, c'est l'héritage, elle lègue et transmet ses ouvrages. Alors, ça se termine aussi. Huchon, j'y apprends qu'il y a un prieuré qui va être...
Que j'ai habité.
Carrément, vous fûtes moniale.
Alors, ça ne se voit pas, mais
pas trop.
J'ai habité pendant 10 ans l'ancien prieuré d'Huchon.
Qui a été créé en 1260. Et puis, j'aimerais que vous reveniez sur un pèlerinage qui a duré longtemps dans les environs d'Huchon. C'est la fameuse dame de la Certenue, cette fontaine miraculeuse.
Oui, alors, comme bien sûr de nombreux sites chrétiens, ont pris la place de certains sites dits païens. Et notamment, la Certenue, c'était un site gallo-romain. Et il y avait une piscine gallo-romaine dont on a retrouvé la trace, avec une eau qui est dite miraculeuse. Alors, à l'époque, c'était bien sûr plutôt une déesse romaine. Mais quand les chrétiens sont arrivés, on a construit une petite chapelle et on a repris cette source miraculeuse. Et bien sûr, on a mis dans cette petite chapelle une statue. Et c'est toute une légende ou pas. En tout cas, cette statue a été, notamment au moment de la Révolution française, a disparu. Et un jour, un paysan a retrouvé cette statue, etc., etc. Il y a beaucoup de choses à raconter sur la Certenue également.
Page d'histoire à l'instant dans Wagon Livre sur Radion avec le roman historique de Laurence Dollet dont je rappelle le titre, Jeanne, Dame du Chon. Si vous avez manqué une partie de cette émission, c'est très simple, vous la retrouvez dans son intégralité sur le site d'archives de tous les Wagons Livres diffusés sur l'antenne de Radion depuis 15 ans maintenant, www.yannickpetit.fr. Je rappelle les références des ouvrages dont il a été question lors de cette table ronde enregistrée en public lors de la 5e édition du Salon du Livre de Blanzy, c'était le 12 octobre dernier. L'Alpha et l'Oméga d'Estelle Tarot, un thriller, Estelle Tarot invitée d'honneur avec Christophe Royer de ce Salon du Livre de Blanzy. La Malnaissance de Serge Etiévant, et n'oublions pas le roman de notre junior Tristan Frachet, jeune lycéen, qui a signé son premier roman intitulé « Les demi-dieux ». Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin d'année 2025. Bon réveillon de la Saint-Sylvestre, amusez-vous bien, profitez, et puis saluons l'année 2025 pour bien accueillir la prochaine à venir. Wagon Livre sera au rendez-vous début janvier, chaque samedi toujours à 11h sur Radion. Merci de votre fidélité et de votre écoute. Au revoir, à samedi prochain et à l'année prochaine.